Ce soir, on va faire comme une continuité du cours sur la prière qu'on avait fait il y a plusieurs semaines, sauf que c'est un peu comme la... C'est pas une conclusion, c'est comme... Si on se dit, on veut faire quelque chose pour le Seigneur dans la prière, on a besoin d'un guide à quelque part. Puis pour être guidé, il n'y a rien de mieux que des feuilles écrites. Je demanderais à certains frères de prendre un bord...
On n'a pas nommé, faut pas les nommer.
Pas les nommer. Ceux qui dégainent le plus vite, c'est eux autres qui les ont. Vous n'êtes pas obligé de commencer à le lire tout de suite. On va le faire ensemble par la suite. Je vais juste comme faire une petite introduction avant de commencer. Après ça, on rentre dans le guide. Puis je crois que... Pardon? Ceux qui veulent prendre des notes, c'est ceux qui peuvent en mettre à la fin. Parce qu'il y a comme une petite place pour les notes, mais il n'y a rien qui vous empêche de rajouter des feuilles puis de rajouter des notes. De toute façon, ceux qui veulent avoir la cassette des explications, c'est toujours disponible sur cassette et en plus, vous pouvez aller l'écouter sur l'Internet. Parce que toutes les prédications que le Seigneur me donne de donner, je les mets sur l'Internet puis vous pouvez aller cliquer et les écouter en direct. Mais c'est pas en direct, mais c'est... Est-ce que tout le monde a eu le guide? Y en a-tu qui n'ont pas eu? OK, comme pour l'introduction, je vais juste vous donner quelques idées pourquoi qu'on aurait besoin d'un guide. Avant tout, je vais vous dire qu'un guide, ça remplace pas la prière par l'Esprit. Comme qu'on voit dans Corinthiens, il dit « Qu'à faire donc? » Il dit « Je prierai par l'Esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. » Dans la vie chrétienne, on a de la place pour deux modes de prière. Le mode de prière par l'Esprit, ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous met à cœur des sujets brûlants dans notre cœur puis qu'on se met à intercéder pour les choses qui nous donnent en vision, qui nous donnent dans notre pensée, qui nous montre personnellement de prier là-dessus, des prières guidées par l'Esprit. Mais il y a aussi la place dans la vie chrétienne de la prière par l'intelligence. Parce que là, c'est des prières qu'on est conscient personnellement avec notre intelligence des besoins pour lesquels qu'il faudrait prier. Et on décide d'intercéder nous-mêmes sur ces besoins-là. La parole de Dieu a plein de promesses sur la prière, dans les deux sens, que Dieu écoute les prières de ses enfants, ses oreilles sont attentives à leurs prières. Pourquoi un guide de prière? Mais c'est pour ceux qui aiment prier, premièrement, mais pour ceux qui ne pensent pas à tous les besoins. Comment que ça arrive des fois, on a à cœur de prier, on se met à prier... Au bout de 5, 10 minutes, 15 minutes, là, on commence à être à court de sujet, puis on ne sait plus pourquoi prier. Mais c'est là qu'il rentre en ligne de compte un guide de prière. Ça va nous mettre comme une base d'un paquet de points différents pour lesquels nous devons prier. Il y a des points qui vont être comme des... Ça serait quasiment une nécessité de prier à tous les jours. Il y en a d'autres qu'on peut le faire occasionnellement. Mais il faudrait arriver que chacun de nous, on puisse rentrer à prier pour tous les besoins qui vont être décrits dans ce guide-là. Tout à l'heure, on va y voir un par un les points, puis les raisons pour lesquelles on devrait prier pour ces choses-là, accompagnées de versets bibliques. Le guide de prière peut servir aussi pour ceux qui veulent commencer une vie de prière systématique. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois, on commence à prier, on entend un besoin de prière, puis on le mentionne, après ça, on en entend un autre, on le mentionne. Mais il vient temps, peut-être, qu'on aurait à cœur de prier un peu plus pour certaines choses qu'on ne sait pas. Puis le guide de prière, si on commence à prier systématiquement, ça veut dire, on commence à prier pour certains besoins, on tombe à l'autre, on tombe à l'autre, on tombe à l'autre, puis ça, c'est une manière systématique, c'est-à-dire, tu commences au début, puis tu passes à travers de tous les sujets de prière que tu pourras faire. Mais ceux qui veulent commencer à prier de cette façon-là, d'une manière systématique, vous avez besoin du guide. Le guide de prière va nous servir aussi pour nous donner une vision pour les besoins spécifiques pour notre croissance personnelle et pour la croissance de l'Église. Parce que des fois, comme qu'il dit, on ne sait pas que dans notre faiblesse, on ne sait pas quoi demander. On a besoin de connaître que j'ai besoin. Si on parle de l'alimentation comme un exemple pour nous faire comprendre ça, on vit au monde, on se cause pas la tête sur ce qu'on mange. On mange ce qui nous est présenté dans notre bouche. En premier, c'est du lait, après ça, c'est du pablum. Puis là, après ça, on mange ce qu'il y a dans notre assiette que nos parents nous ont donné. Mais il vient un temps où ce qu'on est capable de se préparer nos repas nous-mêmes, puis on peut même discerner pour faire des repas équilibrés ce qui est bon et ce qui est moins bon. Puis pour avoir un régime équilibré, c'est d'avoir de toutes les vitamines qu'on a de besoin. Mais la prière, c'est un peu comme ça aussi. Il y a des prières que le Seigneur voudrait qu'on prie à tous les jours sur des besoins spécifiques qui font partie d'un équilibre pour une croissance normale dans la vie chrétienne. Pour notre croissance personnelle, il y a plusieurs points que le Seigneur veut qu'on prie. Pour la croissance de l'Église, il y a plusieurs points que le Seigneur veut qu'on prie. Le guide sert à nous donner comme un menu équilibré de l'ensemble des requêtes qu'on pourrait présenter au Seigneur. Le guide de prière va nous servir aussi afin de bâtir une équipe de prière fidèle dans notre Église. On a besoin d'une équipe de prière, d'intercesseurs. Ce n'est pas un don nécessairement spécial, un don spécial qui nous est communiqué d'en haut, puis que là, on intercède. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui c'est ce don-là, mais on peut tous rentrer comme dans l'équipe de prière, puis d'intercéder selon les besoins qui sont décrits dans ce guide, puis par le fait même, on devient des intercesseurs, on devient des personnes qui participent à l'avancement de l'œuvre du Seigneur en intercédant pour tous les besoins, sans nécessairement avoir été d'avance instruit sur toutes les choses qu'on devait savoir. On n'a pas besoin d'attendre d'être des diplômés au doctorat pour connaître tous les points dans lesquels on doit prier. On ne faut pas attendre de connaître tout ça pour commencer à prier. Juste en suivant un guide, on le sait qu'il faut prier pour tel besoin, qu'on le sait que c'est conforme à la parole de Dieu, on le sait que Dieu veut nous exaucer dans tous ces points-là. On peut déjà commencer, même quand on vient d'accepter Jésus, on peut déjà commencer à prier pour les besoins. On doit apprendre à présenter des prières en s'accordant ensemble pour demander des choses, puis en priant avec persévérance. Quand que dans Matthieu 18-19, il nous dit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Mais comment est-ce qu'on peut faire pour finir par s'accorder pour demander des choses si on ne sait même pas pour quels besoins que les autres prient, on ne sait même pas quels sont les besoins de l'Église? Si je vais arriver à quelque part pour m'accorder, il faut qu'on se base sur certains guides, un guide de prière qui nous aidera à s'accorder, à demander, tous ensemble, à demander les mêmes points. Puis si deux s'accordent pour demander une chose sur la terre, le Père va nous exaucer nos requêtes. Mais tiens, amen à ça. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce verset-là, il est écrit dans la parole de Dieu. Il y a tiens, amen à cela. Tous ceux qui ont la foi disent amen. Pourquoi avoir... Est-ce que c'est nécessaire prier, d'après vous? La réussite des grands ministères qu'on voit, les ministères publics là, qu'on voit qui font des croisades immenses, il y a des 2000, 3000, 5000 personnes qui sont sauvées à tous les ans par leur ministère. La réussite de ces grands hommes de Dieu-là, c'est pas à cause de leur talent personnel, c'est pas à cause parce qu'ils ont beaucoup d'argent en banque, c'est pas à cause parce qu'ils ont beaucoup de monde dans leur église, c'est parce qu'ils ont beaucoup de monde qui prie en arrière de ces ministères-là. Il y a des groupes de prière là, immenses, même pendant les réunions, pendant qu'ils se déroulent. Tu vas en arrière dans le backstore, il y a peut-être 100 personnes qui prient, qui intercèdent tout le long des cérémonies qu'eux autres présentent. Puis c'est là qu'il se passe quelque chose. S'il n'y aurait pas ces hommes et ces femmes de prière-là en arrière, il n'y aurait rien qui se produirait dans leur ministère. Croyez-vous à cela? Est-ce qu'on veut qu'il se passe quelque chose à Châtelier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. S'il y a une personne qui tire sur un câble qui est attaché après quelque chose qu'il faut bouger, ça a une certaine force. Mais s'il y a 100 personnes qui tirent après le même câble, la force augmente, mais spirituellement, c'est le même effet. Les puissances des ténèbres, eux autres, ils réclament des choses pour mettre du négatif dans le monde. Puis nous autres, les chrétiens, on devrait unir nos forces à prier pour les mêmes besoins afin d'unir nos forces puis de demander des choses positives dans ce monde. C'est notre mission. On est envoyé pour bénir. On est envoyé pour que les gens soient bénis. Quand l'Église n'a plus de vision de grandir, elle a besoin d'un réveil. Est-ce que notre Église a perdu sa vision de grandir? Si on l'a perdu à quelque part, on a besoin d'un réveil. Il faut se secouer. Il faut se dire, hey là, à quoi ça rime? On tourne en rond. On est encore pareil comme il y a 20 ans. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il serait supposé de se passer quelque chose. On a besoin d'un réveil quand on pense que si on vient à l'église le dimanche, on chante 2, 3, 5, 6 chants, on entend un message, puis souvent il nous a passé 6 pieds par-dessus la tête, puis on pense qu'on a accompli la vie chrétienne. On n'est pas dedans. La vie chrétienne, c'est du monde engagé à la semaine longue, à vivre en étant un ambassadeur de Jésus-Christ. Puis partout où ce qui passe, il sème la parole, puis il prend du temps aussi pour prier, pour intercéder, pour que les choses avancent. C'est là qu'il va se passer quelque chose. Puis si une église n'a plus le goût de prier, elle a besoin d'un réveil. Elle a besoin d'être secouée par le Seigneur. On doit être secoué afin d'avoir le goût de prier. Il faut s'exciter parce qu'on le sait qu'il ne se passera rien sans prière. Mais si je veux que mon église avance, si je veux qu'il se passe de quoi, si je veux qu'il y ait de l'onction, si je veux qu'il y ait des guérisons, si je veux que la puissance de Dieu se manifeste, il faut commencer à prier. Il faut se semer cette idée-là dans notre esprit et l'entretenir. Qu'une église qui prie pas, elle avance pas, mais une église qui prie, avance. Et si on saisit cette pensée-là pour qu'on a le goût de voir les choses avancer, il faut rentrer dans cette dimension-là de prier, de prier, de prier sans se relâcher. À quoi ça servirait de commencer à prier pendant une semaine, un mois, après ça on abandonne tout, puis on relâche tout, puis on ne prie plus personne. La roue, là, ça avance plus. À un moment donné, quand on arrête tout, ça arrête au point où on est rendu. Puis si il n'y a rien d'autre qui se passe, un an après, on va être encore rendu, c'est à la même gear, à la même place, même pas bouger d'un pouce. Le Seigneur veut que notre Église prospère spirituellement en ayant de nouvelles brebis, que les disciples s'affermissent, que les disciples se fortifient, que les disciples forment d'autres disciples et qu'il y ait une multiplication. C'est dans le plan de Dieu. Puis il veut ça ici, puis il s'attend à ce qu'il y ait des gens qui soient enflammés, cette vision-là, puis commencent à prier, embarquer dans la roue pour faire avancer les choses. Puis il va se produire de quoi? Avant de juger puis de critiquer un ministère, peu importe le ministère, commencez à prier pour ce ministère-là. Ça peut être un pasteur qui est en avant, mais il est-tu plate? Oh, c'est ci, oh, c'est ça. Au lieu de critiquer, priez pour les ministères. Vous allez voir qu'il va se passer de quoi de spécial. La puissance de Dieu va descendre, puis il va se manifester, puis vous allez être touché et rencontré dans vos besoins. Il faut saisir par la foi que Dieu veut exaucer nos prières. Dieu veut les exaucer. On en a parlé, il y a plein de promesses. La dernière phrase du dernier chant qu'on a chanté, « Rien ne se compare aux promesses que tu as pour nous. » Puis dans ces promesses, Dieu veut nous exaucer. Il veut répondre. Il veut agir en réponse à nos requêtes. On a besoin de commencer à prier. Puis si nous prions, nous allons voir les choses bouger parce que la prière est le moteur de la vie chrétienne. On va rentrer dans le guide de prière. Ce que vous voyez en premier, la première et la deuxième page, c'est comme tous les titres des sujets pour lesquels nous devons prier. Mais les explications de chacun de ces titres-là, ça commence à la page numéro 3. On va aller tout de suite à la page numéro 3, à l'introduction. Est-ce que vous avez compris la courte exhortation que je vous ai donnée au début? Ça vous a-t-il donné le goût un petit peu de commencer à vouloir prier? Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez entendre pour vous exciter, pour vous donner le goût de prier? Y en a-t-il qui pensent que c'est pas grave pas prier? Y en a-t-il qui trouvent que c'est grave pas prier? C'est comme de manger. C'est nécessaire de manger, puis on se fait pas prier pour manger, mais on devra pas se faire prier pour prier non plus. OK. Dans l'introduction, on va partir, là. On va suivre les points à partir de cette page-là. Ça va comme donner une explication à chaque point qu'il y a à la page couverture. La page couverture, c'est comme ça. C'est les points qu'il faut suivre dans notre requête. Comme, au point 2, c'est marqué, prier pour ma croissance spirituelle et mes besoins physiques. Bon. Le premier point, 2.1, c'est marqué, mettre ma vie en règle. Mais là, si je comprends pas, c'est quoi mettre ma vie en règle? Mais là, je vais à la page numéro 3, au point 2.1, ça dit « Mettre ma vie en règle ». Puis là, il y a un verset, puis il y a des explications pourquoi il faut que je mette ma vie en règle. Au début, peut-être que j'avais besoin d'aller voir les explications, mais il va venir un temps, ça va être naturel. Il faut que je mette ma vie en règle à tous les jours. Mais tous les points de même vont être évidents après que vous avez été renouvelés dans votre intelligence par les versets qu'on va voir. On va commencer à l'introduction. Vous pouvez vous servir de d'autres feuilles pour écrire les noms des gens et leurs besoins. Cette feuille, comme étant la première feuille qu'on voit, elle vous servira de guide seulement. Mais il n'y a pas tous les noms des personnes pour lesquelles vous devez prier. C'est juste le titre des sujets pour lesquels on devrait prier. Vous pouvez vous rajouter une autre feuille et écrire les noms des gens, comme au point 2, tel nom, point 3, tel nom. De même, vous allez suivre cette feuille-là, tout va être classé chronologiquement. Si vous pensez à d'autres sujets que ceux qui sont mentionnés ici, vous pouvez les ajouter. Le Seigneur ne nous chicane pas si on rajoute des points. Si vous pensez à d'autres sujets qui sont mentionnés dans la liste, on peut les rajouter, puis le Seigneur ne nous chicanera pas. Le Seigneur va être content de voir qu'on voit clair, puis qu'on a notre esprit éveillé sur les besoins, puis qu'on commence à intercéder là-dessus. On peut y rajouter, on peut les communiquer aux autres pour dire, vous pouvez rajouter ça dans votre guide, puis on rajoute les requêtes, puis ça va devenir de plus en plus complet. On est encore dans l'introduction, au troisième paragraphe. Vous pouvez organiser votre temps de prière comme vous le voulez, l'heure que vous voulez, le temps que vous voulez. Passez toute la liste en une seule fois à tous les jours ou plusieurs fois par jour. Passez la liste par section à plusieurs moments dans la journée ou une partie de la liste à chaque jour. C'est pas grave la manière qu'on la passe, la liste. Du moment qu'on la passe. Puis qu'on la repasse et qu'on la repasse et qu'on garde l'idée de repasser la liste avec persévérance. Quand le Seigneur dit « deux qui s'accordent pour demander une chose », ça ne veut pas dire que c'est deux qui prient en même temps, à même heure, en même seconde, en demandant la même affaire. Ça peut être un qui a demandé là, puis l'autre le demande le lendemain, puis la chose va être accordée. L'idée, c'est que on prend une routine de prière, c'est du lune demi-heure par jour, on part avec notre demi-heure par jour. Si c'est une demi-heure par deux heures, mais à tous les demi-heures, on continue ce qu'on est rendu, puis on peut continuer à prier comme cela. Mais comme j'ai dit, ça n'enlève pas la prière par l'esprit. Si le Seigneur vous donne à cœur de prier quelque chose à travers les autres prières, vous y allez. C'est que les deux doivent faire partie de notre vie de prière. Il faut le faire d'une manière continue. Tant que la veuve, elle a commencé à demander « Fais-moi justice de la partie adverse », elle allait achaler le juge. Qu'elle lâchait pas, puis c'est à cause qu'elle lâchait pas qu'elle est exaucée. Puis le Seigneur nous dit d'imiter cette femme-là. L'important est de dire au Seigneur ce que vous voulez, que ses prières vous soient accordées parce que vous les réclamez ses promesses au nom de Jésus, qu'elles vous appartiennent à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Ces requêtes-là, on dit au Seigneur, on les réclame dans le nom de Jésus. Puis quand on les demande, c'est dans le nom de Jésus, à cause des mérites de Jésus. Si vous continuez à garder ça dans cet esprit-là, vous rentrez dans les prières qui sont écoutées. Maintenant, y en a-t-il qui ont des questions sur l'introduction? Tout est clair? On va rentrer dans les points pour lesquels on devait prier. Le chapitre 2, on l'appelait le chapitre 2, cette première section doit être couverte à tous les jours. C'est la prier pour ma croissance spirituelle et mes besoins physiques. On devrait toujours prier pour notre croissance spirituelle à tous les jours. Et si vous ne savez pas pour quel et quel point demander, c'est ce qu'on va voir. Le point 2.1, mettre ma vie en règle à tous les jours. 1 Jean 1.9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On veut mettre notre vie en règle avec lui. On veut que nos péchés soient pardonnés. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est important de réaliser que pour garder une bonne relation avec Dieu, nous devons apprendre à confesser nos péchés et à les abandonner. Nous pratiquons nos péchés un à un, nous devons les confesser un par un et les rejeter individuellement. Pour connaître quels sont nos péchés, nous devons se référer à sa parole. La parole de Dieu nous parle de péchés commis et de péchés. Non, il parle de péchés commis et de péchés par omission, c'est-à-dire toutes les fois qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Parce qu'il y a un verset qui nous dit chaque fois que vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire, c'est un péché. Fait que quelqu'un qui dit, « Oh, ben moi, j'en vois plus de péchés dans ma vie. » Peut-être que tu n'as pas vu de choses que tu as faites, mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas faites pour le Seigneur? Peut-être que le Seigneur veut que tu fasses certaines choses dans ta vie et que tu ne les fais pas. Si tu sais que tu avais telle chose à faire et que tu ne l'as pas faite, tu as comme un péché. Faut que tu demandes pardon, Seigneur. Faut que tu le confesses, ce péché-là. Et si tu penses trois fois que tu as fait ça dans la journée, tu n'es pas obligé d'attendre le soir pour les confesser, tu peux le demander pardon tout de suite quand tu viens de le commettre. Mais l'important, c'est de les confesser un par un. Si on dit, « Oh, Seigneur, pardonne tous mes péchés que j'ai faits aujourd'hui. Salut, bye, là, sans te toucher. » Tu n'as même pas pris une prise de conscience sur le péché sur lequel tu voulais qu'il te pardonne. Tu n'as pas pris de prise de conscience aussi qu'il fallait peut-être que tu y confesses et que tu l'abandonnes. Ça n'a aucun effet, cette prière-là. Le Seigneur s'attend qu'on les confesse un par un. Puis, en les confessant, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Il ne fait pas juste pardonner, il va nous communiquer tout ce qui va avec pour nous en sortir, nous purifier, qu'on soit pur de ça, qu'il n'y en ait plus aucun effet et que ça finisse par sortir de nos vies. Jacques 4, 17, il dit, celui donc, ça c'est pour rajouter à ce que j'avais dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Il y a des péchés qu'on commet, on fait des choses pas correctes, puis il y a des choses qu'on devra faire, qu'on n'a pas faites, c'est un péché. Faut pas se fermer les yeux là-dessus. Ah, aujourd'hui, j'ai à cœur de parler du Seigneur à la personne qui est à côté de moi. Ça me bouillante dans de moi, j'avais le goût d'y parler. J'ai pas parlé du Seigneur, puis je me suis fermé. Là, quand on le réalise, là, c'est quelque chose que je devais faire. Le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Puis là, on le fait pas pour une raison ou pour une autre. Faut pas étouffer l'histoire. Faut demander pardon au Seigneur pour cette affaire-là. Il nous conduisait à faire cette œuvre-là, puis on a omis de la faire. Être obéissant, c'est être attentif à sa voix. Être attentif, c'est d'écouter puis de le faire. Je dis pas qu'on est rendu parfait. Je ne suis pas rendu parfait. Moi aussi, il faut que j'en confesse des choses. Mais il faut apprendre dans notre vie chrétienne à les confesser. Le deuxième point, ça, c'est des choses qu'on doit demander à tous les jours. Demander afin d'être rempli du Saint-Esprit. Ouais, ben moi, quand j'ai accepté Jésus, je l'ai demandé d'être rempli. Ça fait 18 ans de ça. Non. C'est pas que ce que tu as fait il y a 18 ans qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui. Est-ce que tu veux l'être rempli du Saint-Esprit? Éphésiens 5, 18, ça nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Puis là, il nous dit, dans les autres versets, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Quand tu embarques de tout ton cœur à louanger le Seigneur, c'est la méthode pour être rempli de l'Esprit. Après avoir confessé, bien entendu, tu rentres dans la louange, tu loues le Seigneur, tu rentres dans sa présence, puis le Seigneur te remplit de son Esprit. L'état d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option, mais une obligation. Personne ne peut vivre la vie chrétienne sans être dirigé par son Esprit. Dieu, dans sa parole, nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. C'est un verbe au mode impératif présent. Dans le grec, là, c'est dans l'impératif, ça veut dire « Sois rempli », ça veut dire « Fallait », c'est un ordre que je te donne, « Sois rempli du Saint-Esprit ». On peut pas dire « Oh, mais c'est pas grave de le demander ». Oui, c'est grave de ne pas le demander, parce que le Seigneur veut qu'on recherche être rempli de son Esprit. La Bible nous encourage à le demander et nous le recevrons. Parce que dans Luc 11, 13, il dit, « Si donc, méchants, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? » On l'a reçu quand on a donné notre vie au Seigneur, mais on doit rechercher en être rempli. Rechercher être rempli du Saint-Esprit, c'est à tous les jours. Le meilleur temps pour le demander, c'est le matin. Tu commences ta journée. Parce que marcher à vide toute la journée puis de le demander avant de te coucher, tu peux être rempli pendant la nuit, mais est-ce que le lendemain tu vas être encore rempli? Là est la question. Oui. Oui. Ben oui. Ben oui. Oh, puis oublie N'oubliez pas, si vous avez des commentaires ou une question, là, au fur et à mesure qu'on avance, posez-la. Le point numéro 3, 2, 3. Demandez de faire mourir les œuvres de la chair. C'est à tous les jours. Romains 8, le verset 13-14, il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, si par l'esprit je fais mourir les actions du corps, on voit que là-dedans c'est l'esprit qui va les faire mourir, mais si par l'esprit vous faites, je fais, ça veut dire que ça implique une volonté de ma part de vouloir que les œuvres de ma chair soient mortes et qu'ils meurent à cause de l'action du Saint-Esprit. Mais c'est quelque chose que je dois demander à tous les jours de faire mourir les actions de mon corps. Le processus de délivrance dans notre vie nécessite l'action du Saint-Esprit pour faire mourir les actions de notre corps. L'être humain n'a pas en lui-même la force pour sortir de sa mauvaise nature. La Bible nous enseigne qu'il faut s'en remettre au Saint-Esprit pour faire mourir les actions de notre corps. C'est pour cela qu'il est important de le demander à tous les jours. Tu n'es pas obligé d'être prié 24 heures de temps. Délivre-moi de ça, délivre-moi de ça, délivre-moi de ça, délivre-moi de ça, délivre-moi de ça. Non, parce qu'il faut que tu pries pour les autres points aussi. Mais quand tu commences ta journée, tu mets ta vie en règle, tu demandes pardon au Seigneur pour les choses que tu sais que tu es dans un travail de sanctification dans ta vie, puis que là, tu lui demandes d'être rempli du Saint-Esprit, puis là, après ça, tu lui demandes de faire mourir les actions de ton corps. C'est un processus que le Seigneur a entrepris dans ta vie. Par l'Esprit, il va les faire mourir. Mais tous les points sont quasiment tous chronologiques. Si vous allez faire la liste par la suite, là, vous allez voir que ça a comme une je sais pas comment vous le dire, ça a un ordre qui est une chronologique qui suit dans les requêtes. Le point numéro 2-4, demandez afin d'être revêtu de l'homme nouveau. Éphésiens 4-24. Ça nous dit, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir l'homme nouveau sous-entend à réclamer par la foi ce qui vient de Dieu, son caractère, sa pensée, son amour, sa puissance, etc. Tout ce qui n'est pas naturel dans l'homme, mais qu'il est nécessaire afin de lui ressembler, Dieu nous le donnera. Autant qu'on lui demande, je veux être rempli, fais mourir ces actions-là, mais revêt-moi de l'homme nouveau. Je te demande de mettre en moi ton caractère, ta pensée, tes émotions, tes sentiments, ta douceur, ta patience. Parce que c'est pas naturel dans notre être humain. D'un côté, il faut que ça meure, puis d'un côté, il faut qu'on soit renouvelé et revêtu de ce qui vient d'en haut. Il faut le demander à tous les jours. Le point 2-5, je me dépêche parce que je vais essayer de passer à travers tous les points avant la fin de la réunion. Demandez afin d'être revêtu de son armure. Éphésiens 6, le verset 10 et 11, ça nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Puis si on vous dirait, fortifiez-vous, puis revêtez-vous, c'est encore des ordres qu'il nous dit de faire. C'est sûr qu'il nous donne des explications puis il nous dit les points positifs pour lesquels on devrait aller rechercher, mais c'est encore dans la pensée, vous devez faire ça. Puis ça nous dit, fortifiez-vous, ça dit, moi je dois me fortifier dans le Seigneur. Ça dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, je dois me revêtir de ces armes. Ça dit, c'est moi qui les prends, qui les demande, qui les prend, qui m'en revêt de toutes ces armes. Parce qu'on n'a pas à lutter contre les humains. On a à lutter contre les démons. Des fois, on dit, ouais, mais j'en vois pas. On dit à tout le monde, ça va mal, le stincide, mais je vois pas de démons nulle part. Ça va mal. On est tous démolis, on comprend pas pourquoi, mais je vois pas un esprit nulle part. Ben oui, mais ça nous le dit, c'est pas contre les humains que tu combats. C'est contre les esprits. Ils sont là. Ils nous assaillent, ils nous attaquent tous les jours. Pensez pas de commencer à vous lever et marcher dans la victoire toute votre journée si vous n'avez pas été revêtu de l'armure du Seigneur. Ça nous dit que c'est cette armure-là qui va vous donner de marcher. Puis si on lirait tout le texte qui est écrit dans Éphésiens, tout de suite par la suite, ça nous dit « Afin de tenir ferme, non, afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Quand tu as cette armure-là, tu vas résister dans le mauvais jour. Quand ce jour-là, il est mauvais, ça va mal, ça brasse. Afin que tu restes ferme, tu as besoin de son armure, tu vas résister quand ça va mal. Après ça, tu vas tenir ferme après avoir tout surmonté, parce que son armure, quand t'en es revêtu de toutes ses armes qui sont réelles, quand t'en t'es utilises, tu deviens au-dessus des situations, il n'y a plus rien qui t'affecte. Ça te dit que ça va t'aider à tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'il y a une place pour le chrétien d'être au-dessus des problèmes de sa vie. Faut pas penser qu'un chrétien, à cause que ça va mal, que lui est en dessous de son mal. Non. Ça peut aller mal puis que tu sois au-dessus, pareil. Tu peux avoir des problèmes dans ta vie puis que le Seigneur donne une grâce spéciale qui vient de sa force souveraine, qui t'en est revêtu parce que tu la réclames à tous les jours, puis tu marches au-dessus de tes problèmes. T'es pas normal, t'es pas pareil aux autres. Tout le monde s'est arraché les cheveux de sa tête des problèmes que tu vis. Toi, tu marches au-dessus de toute chose parce que t'es revêtu son armure. Parce que tu l'as demandé, il te l'a donné. Parce qu'il veut que tu sois vainqueur dans ta vie. On est plus que vainqueur par celui qui nous a fortifiés. Mais c'est en allant chercher ses armes et sa puissance qu'on va devenir plus que vainqueur. C'est pas un qu'accordé quand t'as accepté Jésus. À tous les jours, faut que tu sois rempli de l'esprit, faire mourir les actions de ton corps, revêtir l'homme nouveau, revêtir de l'armure pour combattre contre les démons. Puis on continue avec le point numéro 2-6. Demandez la protection de ses anges aussi. Acte 12-1. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » L'apôtre Pierre est en prison, puis l'Église est en train de prier, puis elle ne cessait de faire monter des prières pour lui. Il priait que Pierre soit secouru, que Pierre soit sorti de cette prison-là, parce qu'il venait juste de faire tuer Jacques, qui était un des 12 apôtres. La même journée qu'il était arrêté, puis l'autre est en prison, il passa le lendemain. Fait qu'eux autres, il dit, ça priait. Puis quand une église prie, qu'est-ce qui se passe? Dieu agit. Dieu a envoyé son ange pour sortir Pierre de là. Croyez-vous aux anges?
Amen.
Dieu dit qu'il a mis l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et puis les arrache au danger. C'est une promesse de la parole de Dieu que des anges qui viennent de Dieu sont tous les jours du matin au soir à côté de nous autres et qui nous arrachent du danger. Mais on peut prier pour demander au Seigneur des fois, je ne lui dis pas de prier vos anges gardiens. Ça, c'est une fausse doctrine. On ne doit rien demander. Ils sont pas là. On ne doit pas se prosterner devant eux autres parce que, comme on voit Jean qui a vu la révélation dans l'Apocalypse, après avoir vu tout ça, il s'est prosterné à terre devant l'ange qui montrait ça. Puis il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de ceux qui ont la foi en Jésus. Les anges sont là pour être notre compagnon de service. On marche dans ce monde, on a des choses à faire dans le Seigneur. On a des anges à côté de nous autres qui sont nos compagnons de service et qui luttent avec nous autres qui a compris dans le monde céleste. Puis le Seigneur, il nous fait donner des victoires à cause de ces anges-là aussi qui combattent pour nous. On pourrait aller donner des exemples de ça dans l'Ancien Testament, mais là, on n'a pas le temps. Mais croyez qu'ils sont là. Pierre a été délivré par un ange. Si on lit ça aujourd'hui dans les manuels scientifiques qui essayent d'expliquer toutes les guérisons, ils vont dire, pour moi, il était inoptisé, il a inoptisé tout le monde, puis là, il a réussi parce que lui, il devait être descendant de l'arrière-grand-père d'Odini, puis il a réussi à ouvrir la prison lui-même. Non, ça s'explique pas comme ça. Ça s'explique tout simplement qu'il y a vraiment un ange qui est apparu, puis qui a frappé d'aveuglement tout le monde, dormait bien dur, les portes se sont ouvertes tout seul, ses chaînes sont tombées, il est sorti de là, puis après ça, il revenait à lui-même, puis il dit, Dieu a envoyé son ange, puis là, il est allé voir la gang qui priait pour lui. Et là, je ne dirais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'ils doutaient un petit peu. Mais nous autres, on ne doit pas douter, puis Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Puis il nous dit même encore, il dit d'exercer l'hospitalité. Même avec du monde que vous connaissez pas. Parce qu'il y en a qui ont logé des anges sans le savoir. Exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité envers ceux que vous voyez, des pauvres sur la rue, que vous connaissez même pas, que vous avez jamais vu. Invitez-les. Vous allez peut-être loger un ange, puis Dieu nous exhorte à faire cela. 2.7. Demandez une croissance dans la connaissance. C'est encore à tous les jours, vous demandez ça. Dans Colossiens 1.9, ça nous dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Paul est en train de dire que lui, à partir du moment qu'il a su que ce monde-là s'était converti au Seigneur, il dit, il ne cessait nuit et jour de prier pour ces gens-là afin que leur intelligence augmente, leur discernement augmente, leur connaissance de la volonté de Dieu augmente. Paul le faisait pour ces chrétiens-là. Est-ce que je devrais le faire pour moi-même? Je pense que oui, nous devrions prier nous-mêmes Dieu, que Dieu nous donne sa connaissance, qu'il nous donne son intelligence, qu'il nous donne la connaissance de sa volonté, qu'on puisse rentrer dans son plan qui est parfait. Parce que je pourrais vous dire qu'il n'y a pas juste un plan que Dieu a pour nous autres. Il y a des plans, il y a un plan qui est bon, mais il y a un plan qui est agréable, mais il y a un plan qui est parfait. C'est dans le plan parfait que Dieu veut qu'on rentre. Les révélations de sa volonté exprimées dans sa parole nécessitent l'intervention du Seigneur. Nous ne pouvons pas penser comprendre les mystères de Dieu sans qu'il nous les explique par son esprit. Paul avait compris cela puis intercédait pour que les enfants de Dieu puissent recevoir cette révélation. On ne peut pas comprendre les mystères de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit nous les dit. Si je veux savoir les mystères de Dieu, comprendre les mystères, la science, la connaissance, sa volonté, ce qui est son plan pour moi, je dois lui demander. Puis il va me le dire. OK, en parlant des anges, le point 2.6, j'ai oublié de vous lire l'explication que j'ai marquée en dessous. Il dit, dans la grâce de Dieu, il y a une faute d'orthographe. Non, oui, il manque le « et ». Accent aigu. Nous bénéficions d'une protection divine dont Dieu entoure ses enfants. Les anges sont des compagnons de service des croyants, puis ils exercent un ministère de protection, d'encouragement. Nous pouvons demander à Dieu un secours dans les moments difficiles. Parce que on voit que David, il avait prié Dieu dans un de ses psaumes, puis il dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il était dans un moment de grande détresse, puis qu'il demandait au Père dans sa requête, son psaume c'était comme une requête à Dieu, puis il demandait qu'un esprit de bonne volonté vienne le soutenir. Dieu se sert des esprits, des anges, pour nous encourager. On les voit pas, mais des fois on a des pensées qui nous viennent pour nous encourager, puis ça vient de nos compagnons de service. Il y a d'autres points qu'on pourrait regarder dans la parole. C'est tous des sujets qui seraient excitants d'aller fouiller. Sortir toutes les. Il y a une richesse là-dedans. Mettons, vous arrivez dans une situation, là, sans que le matin, on part, qu'on lui demande d'être revêtu de l'armure. Puis là, on part notre journée, on est dans son armure, dans sa protection, on part. Mais ça peut arriver qu'on rentre dans un combat plus intense dans la journée à cause de situations. Puis là, il y a du monde qui nous parle des affaires, puis ça nous rentre au cœur, ça nous blesse, on est blessé par ces paroles. Mais en réalité, ça, c'est un trait enflammé du malin. Il dit, avec le bouclier de la foi, on va pouvoir éteindre les traits enflammés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en donneront plus de traits, mais ils frappent le bouclier, il n'y a plus une flèche qui nous atteint, parce qu'on est dans une protection que le Seigneur met devant nous autres, qui bloque les traits. Les paroles, ils vont arriver, tu ne peux pas les empêcher, qu'est-ce qu'ils disent aux autres. Ils peuvent dire des choses, mais Dieu peut mettre une protection devant toi, qui vient de son armure, puis ça bloque les traits du diable. Les traits qui sont enflammés, c'est que faire la différence entre une parole qui est ordinaire et une parole qui est enflammée, c'est qu'une parole ordinaire, on l'entend, ça nous rentre par une oreille, ça nous sort par l'autre, ça ne nous dérange pas. Mais quand c'est enflammé, elle nous reste dans le cœur, puis là, ça brûle, puis ça fait mal, puis ça nous blesse, on est tous démolis par cette parole-là, puis on la traîne, le feu, il reste là. Mais ça, c'est un trait qui vient de l'ennemi. Peut-être la personne était bien disposée en disant ça, mais l'ennemi a utilisé cette parole-là pour nous blesser. Oui. Mais si on marche toujours dans l'attitude d'être recherché d'armure, ça ne nous fera plus rien. On va être au-dessus des circonstances avec cette armure-là, oui. Parce qu'on va discerner le combat au fur et à mesure qu'on va avancer. Regardez même en plan physique un soldat. La première journée qu'il fait application, il commence à se pratiquer, à renforcer ses muscles, faire des exercices, à ramper dans la boîte, puis à courir, puis à monter, puis à descendre. Mais après ça, là, imaginons-nous qu'on est dans le temps des armures, là. Puis là, il revêtait l'armure la première fois. Il l'avait. Il pouvait être à l'épreuve de tout. Mais là, il m'a un coup de masse, puis il a ramassu comment à mettre son bouclier devant, ou bien de bloquer avec l'épée, ou il sait pas quand. Il faut qu'il apprenne le combat. Tu peux avoir l'armure, pas encore savoir quoi faire avec. Puis il y a un passage dans l'Ancien qui dit que le Seigneur, il nous rend habiles à manier l'épée. Mais ça, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qu'avec le temps, quand on manie les armes spirituelles, il y a une habileté qui vient, puis on peut atteindre des niveaux de dans l'armée, il y a toutes sortes de soldats. Il y a l'infanterie, puis il y a des Rambo. Il y en a qui sont plus habiles, c'est des experts à rentrer, infiltrer le camp de l'ennemi, puis à massacrer une ville complète à lui tout seul. Il y en a spirituellement que c'est des Rambo spirituels. Il y en a d'autres, c'est des soldats ordinaires qui ont leur force quand ils ont toute la rangée de comme le soldat romain qui avait à peu près 200 soldats ensemble, qui ont tous leurs boucliers ensemble. Ils ont leur force quand ils sont ensemble. Un à un, ils n'ont pas de force, mais à la gang, ils sont forts. Mais les forces de l'ordre, c'est la même chose. Les policiers, c'est des forces de l'ordre. Puis ils sont forts quand ils sont en groupe, combattent des groupes. Un contre le groupe. Bien, spirituellement, des fois, on est plus fort quand on est ensemble, qu'on combat ensemble pour les mêmes affaires. C'est les forces spirituelles du Seigneur. On est l'armée du Seigneur. On est les forces de l'ordre spirituel, nous autres. La même chose que les forces de l'ordre naturel. Bon, mais on doit essayer de faire les parallèles entre le monde physique et le monde spirituel, puis c'est un peu le même pattern qui se représente. Le point numéro 2.8. Il faut demander à Dieu tous les jours de manifester le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, 23, ça nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ici, nous parlons du fruit de l'Esprit. C'est pas un fruit que moi je vais produire, c'est un fruit que l'Esprit va produire en moi. Ce fruit est produit comme conséquence de l'action de l'Esprit dans notre vie. Nous devons désirer demander que ce résultat soit produit en nous. Il faut toujours aspirer aux dons les meilleurs. Il faut aspirer aussi à manifester les dons spirituels. Le point 2.9. Il faut demander afin d'obtenir les dons spirituels. 1 Corinthiens 12.31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et ça, le mot aspirer est encore d'un verbe qui nous dit que c'est un ordre qu'on devait faire. De demander tous les jours qu'il nous donne ses dons et qu'on puisse les manifester. Tous ces dons, là, je parle pas des dons, l'habilité de servir, non. Les dons spirituels, c'est des dons de guérison, dons de miracle, des dons de parler en langue, de t'interpréter les langues, des dons de prophétie, les dons de parole de connaissance, les dons de parole de sagesse, le discernement des esprits. C'est des dons qui viennent de son esprit, puis il faut que l'esprit de Dieu produise ces choses-là en nous. Il faut qu'il nous les communique, ces dons-là. Ça se manifeste à des moments donnés. Mais il faut demander au Seigneur pour être disponible à ce qu'il le fasse. Le point 2.10. Je dois demander au Seigneur, je dois prier pour mon implication dans son œuvre, à être utilisé dans l'Église. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il prie que Dieu vous rende capable pour toute bonne œuvre puis que Dieu fasse en vous ce qui lui est agréable. Toutes nos œuvres qu'on a à faire. Ouais, mais je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de faire ça. Moi, mettons, on parle de l'école du dimanche. Je suis pas capable de faire ça, l'école du dimanche. Ben oui, mais est-ce que tu as prié Dieu qui te rende capable de faire en lui cette œuvre? C'est un œuvre qui vient en cours de son esprit. Dieu peut te rendre capable d'être prof d'école du dimanche. Dieu peut te rendre capable de servir dans l'église à faire le café. Tu sais pas là, tu peux prier, puis Dieu va te rendre capable. Tu peux pas dire, je suis pas capable. Les versets que tu peux dire, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. En réalité, là, il y a pas grand chose qu'on peut dire, je suis pas capable. Peut-être vous pourrez pas prendre la place de Billy Graham aujourd'hui, aller prêcher devant un auditorium de 10 000 personnes. Peut-être tu serez pas capable aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que Dieu vous rendra pas capable puis que dans 5 ans vous serez à sa place. Dieu peut vous rendre capable d'être là. Il y a rien qui est impossible à Dieu. Puis je suis, dans le fond, là, je suis sûr que la seule chose qui est impossible à Dieu, c'est d'aller au-delà de notre volonté pour nous rendre dans quelque chose. Parce qu'il a choisi d'agir en fonction de ce qu'on demande. Il n'ira pas au-delà de ce qu'on demande. Puis si on lui dit, je veux que tu me rendes capable de faire ça, mais le Seigneur va nous rendre capable de faire ça. Oh, je suis pas capable de parler du Seigneur au gars à côté de chez nous. C'est un mensonge que l'ennemi vous met. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu vous fortifie, vous allez être capable. Fait que je dois demander à tous les jours que Dieu me donne la force nécessaire pour mon implication dans son œuvre. On n'a plus d'excuses de dire qu'on n'est pas capable. On peut dire, je t'envoie de devenir capable. C'est sûr, vous n'êtes peut-être pas capable là, mais si vous priez pour être capable, Dieu va multiplier vos talents. Les talents qui avaient été remis aux serviteurs, 5 à un, 2 à l'autre, 1 à l'autre, selon leur capacité. Puis à la fin de leur vie, il t'a rendu à 10, l'autre t'a rendu à 4, l'autre t'a rendu à 1. Ça veut dire que leur capacité avait augmenté pour en avoir reçu 5 selon sa capacité, puis à la fin de sa vie, il t'a rendu à 10. Sa capacité a augmenté, ça veut dire qu'il t'a rendu capable d'en utiliser 10, parce que Dieu l'avait fortifié pour être capable d'utiliser 10 talents. On n'a pas d'excuses. On peut demander à Dieu tous les jours qu'il nous rende capable, puis il va le faire. Il y a un amen à ça. Alléluia. Encore dans les points qu'on devait... OK, on va juste continuer la phrase. J'avais lu la première partie de la phrase, mais il y a une autre partie. L'œuvre du Seigneur est étendue et nécessite l'implication de chaque croyant. Est-ce qu'on comprend ça? L'œuvre du Seigneur est étendue, mais ça demande l'implication de chaque croyant. L'Église qu'on est ici, là, peut pas fonctionner si vous participez pas chacun de vous. Sinon, on envoie tout haut les mêmes 5-6 qui font tout l'ouvrage. Le Seigneur, c'est pas de même qu'il voit ça. Il veut que tous participent à faire quelque chose dans son Église. Puis il va nous communiquer la force pour le faire. Nous n'avons peut-être pas la capacité à un dirigeant. Nous n'avons peut-être pas la capacité d'être un dirigeant d'une église, sauf que le Seigneur veut nous équiper de capacités qui viennent de lui afin que chaque poste soit comblé dans son église. Je suis peut-être pas la capacité de prendre la poste à Daniel, mais Dieu peut me donner une capacité de remplir un autre poste qui est dans l'église. Chacun de vous, vous avez un poste que Dieu a préparé d'avance pour vous dans son église. Demandons-lui quelle est notre fonction dans son corps, puis laissons-nous former par lui. Si on la demande à tous les jours, c'est garanti, c'est sûr et certain que l'année prochaine, on va être une équipe complète de gens d'intercession, d'ouvriers qui s'impliquent à 100% à son œuvre. On va marcher dans un réveil incroyable. Parce que c'est lui qui va nous donner la force d'arriver à cela. 2:11. Priez pour qu'il vous ouvre des portes pour parler de sa parole. Colossiens 4:3, il dit, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et de le faire connaître comme je dois en parler. Priez afin que Dieu nous rouvre une porte pour sa parole. Si je prie à tous les jours là-dessus, le Seigneur va nous ouvrir à tous les jours des portes. Souvent, on dit, ouais, mais j'ai pas personne pour parler du Seigneur. Ouais, mais est-ce que je demande que Dieu m'en rouvre des portes? Si je commence par le demander, puis qu'il me demande aussi qu'il me rende capable, mais il va aussi organiser des situations, qu'il arrive des situations que je vais pouvoir passer. 2:12, priez pour la santé, Jacques 5:13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Je peux sauter une ligne, mais c'est pas grave. Jacques croyait dans l'efficacité de la prière, puis il connaissait le cœur de Dieu à vouloir nous guérir. Tous les croyants ont cette possibilité de recevoir une touche du Seigneur dans la souffrance. Êtes-vous dans la souffrance? Priez. C'est ça que ça nous dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Vous avez des souffrances dans la journée? Priez cette journée-là pour ces souffrances-là. Continuez toujours à présenter ça au Seigneur. Le Seigneur va faire une touche dans votre vie. 2:13. Priez pour du travail et pour les besoins de tout genre. Philippiens 4:19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La promesse de Dieu de pourvoir à nos besoins englobe toutes les choses qui sont nécessaires à la vie, le vêtement, la nourriture, un emploi, un toit sur la tête, etc. C'est avec confiance que nous pouvons demander selon nos besoins. Ça, là, je suggère, dans le guide, moi, je n'oblige en rien, mais je suggérerais, quand vous prenez le guide le matin pour partir, en prenant la première page, là, la première page complète, vous voyez les titres qu'on vient de lire avec les explications sont toutes là, un suite de l'autre. Mettre ma vie en règle. Ah oui, là, Seigneur, pardonne-moi de telle affaire. Si je me souviens plus pourquoi je vais mettre ma vie en règle, allez voir l'explication, ça va vous faire comprendre pourquoi il faut le faire. Tout le premier, le paragraphe au chapitre 2, là, tout le chapitre 2 complet, là, ça sera bon de le faire à tous les jours, au moins une fois par jour. Le reste, ça peut être fait à tous les jours, mais c'est pas obligatoire de le faire à tous les jours, mais ça peut être fait à tous les jours si vous avez le temps. Et si vous êtes capable de le faire, tant mieux, ça va faire, comme qu'il nous dit dans la parole, de hâter le jour du retour du Seigneur, mais pour le hâter, il faut le demander, et plus qu'on le demande, plus que ça va finir par hâter son jour. Mais l'idée, c'est continuer à présenter toutes ces requêtes-là. C'est la première partie-là, tous les jours. Parce que c'est pour votre croissance spirituelle. Vous voulez grandir dans le Seigneur, vous avez besoin de ça. Le reste va aller plus vite. On est rendu au chapitre 3. Priez pour ma famille. 1 Timothée 2:1, les versets de 1 à 4. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, sauf. Là, on pourrait mettre une liste de sauf. Non, il n'y a pas de sauf. Il faut faire des prières, des requêtes, des supplications pour tous les hommes. Pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille, paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le point qu'il faut souligner et qui est souligné. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Y a-t-il un amen à ça? C'est un verset de la Bible. Dieu veut que mon père soit sauvé, il veut que ma mère soit sauvée, il veut que mon frère soit sauvé, il veut que ma sœur soit sauvée, il veut que mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes frères, nommez-les, grands-pères, grands-parents, petits-enfants, tous les gens de ma famille, mes voisins, mes amis, mes compagnons de travail, il veut que tout le monde soit sauvé. On a de l'ouvrage. 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi puis il est pire qu'un infidèle. Pourquoi qu'il est pire qu'un infidèle? Parce que même des gens qui ne croient pas en Dieu prennent soin de leur famille puis ils pourvoient à tous leurs besoins. Si nous autres, on ne pense même pas à notre famille, on est pire qu'un incroyant. Dans notre requête de prière, là, je nomme les titres, mais vous pouvez rajouter les noms à la place dans votre liste. Priez pour votre mari, votre femme, les enfants, les frères, les sœurs, père, mère, beau-père, belle-mère. Oui, beau-père et belle-mère. Oncle, tante, grands-parents, petits-enfants, cousins. Mettez des noms. Quand vous tombez dans le temps que vous priez pour les ceux de votre famille, dans le chapitre 3, rentrez dans la liste. Faites la liste. Priez pour leurs besoins, mais priez surtout pour leur salut. Dieu veut qu'ils soient sauvés.
chapitre 4. Priez pour les besoins des frères et sœurs. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Là, on peut mettre le nom avec le sujet de prière, tel que mentionné dans les réunions de prière. Des fois, les mercredis, on vient, il y a des sujets qui sont mentionnés. Là, on pourrait les écrire, puis les rajouter dans notre liste. Puis quand on arrive dans notre temps de prière, dans notre liste de prier pour, pour tous les saints, là, on prie pour les besoins des frères et sœurs, puis on marque les noms. On peut prier pour leur santé, des emplois, pour leur croissance spirituelle, pour les besoins de toutes sortes. Le point numéro 5. Priez pour les besoins des différents ministères de l'Église. Là, on peut mettre le nom avec les sujets de prière, tels que mentionnés dans les réunions de prière, mais des points de base comme le pasteur, son nom est déjà là, on peut prier pour sa vie privée, pour qu'il y ait de l'onction dans son ministère. Nommez-les les points, les sujets de prière pour le pasteur, rajoutez-les dans la liste. Priez pour le pasteur, priez pour l'ancien en formation, c'est Sylvain Chantelois. Priez pour les diacres, parce que ils ont un impact dans l'Église, dans leurs décisions, dans tout ce qu'ils ont à faire comme service. Priez pour eux. Priez pour la formation disciples. Priez pour le comité d'évangélisation. Des fois, il ne se passe pas grand-chose. On va dire, mais ils ne font pas rien. Est-ce qu'on prie pour eux? Que Dieu leur donne une ouverture, puis qu'il leur donne à cœur d'organiser telle et telle chose, puis qu'il donne aussi le financement. Juste pour un sujet au niveau de l'évangélisation qu'il faudra peut-être retenir. L'année passée, dans le budget, on avait voté 3 000 $. Parce que l'année d'avant, on l'avait, le budget de 3 000, et on l'a pas utilisé au complet. La dernière année, que dans l'année concours, il y avait un budget de 3 000 $ qui était pour l'évangélisation. Le seul hic, il y a eu une baisse des finances de l'Église. On dit, Seigneur, on veut évangéliser, on est prêt à aller évangéliser. Une baisse des revenus. Y a-tu de quoi que ça se pourrait-tu qu'à quelque part qu'il y ait un combat spirituel à aller chercher là pour que les revenus commencent à revenir puis que là, puisse continuer à fonctionner? Y a-t-il un amen? Seigneur peut faire de quoi pour pourvoir? Priez pour l'école du dimanche, les responsables, pour les étudiants, puis les enseignants. Priez pour le ministère de musique, pour Sylvain, puis l'équipe musicale. Priez pour les réunions régulières. Est-ce qu'on prie pour les réunions qu'on a le mercredi soir, puis les réunions du dimanche matin, puis les réunions du dimanche soir? Pour qu'il y ait de l'onction des réunions, qu'on sente la présence de Dieu, que sa main vienne nous toucher, qu'il y ait des touches de cette puissance, qu'on sorte d'ici édifié, renforcé, fortifié, qu'il y ait des gens qui aient été sauvés des réunions, puis qu'il y ait des gens qui aient été guéris des réunions. Est-ce qu'on prie pour les réunions, pour aller chercher toute cette onction-là et cette puissance-là? Dieu veut le faire, mais il attend de voir que l'Église le veuille. Dieu s'imposera pas si l'Église le veut pas. Si on veut pas le voir dans nos réunions. Ça se peut-tu que je dis, je veux pas le voir dans les réunions? Non, on veut le voir, le Seigneur, mais pour le voir, il faut lui demander de venir. On le sait qu'on lui a donné un accès à venir quand il veut, mais on peut peut-être lui demander qu'il vienne plus souvent, qu'il compte pas tôt. On peut prier pour les réunions de cellules maison. Les réunions de cellules maison, ça a un impact. Il peut peut-être arriver à avoir plus de cellules maison un jour. Il faut prier aussi pour les ministères d'évangélisation pour enfants, que notre frère Richard, il entreprend. Il est invité par des églises à aller dans les églises puis édifier les enfants dans la foi par son ministère. Puis en plus, ça peut être dans les écoles, d'aller présenter l'Évangile dans les écoles, dans les places où ils ne connaissent pas le Seigneur. Priez que le Seigneur ouvre des portes et qu'il pourvoie tous leurs besoins. Il faut prier pour nos missionnaires. Isabelle Simon est missionnaire. Isabelle Simon, c'est notre missionnaire, mais on peut penser aux missionnaires des églises baptistes. Il y en a plein de missionnaires qu'on peut prier. Et beau partage, je ne me souviens pas pourquoi j'ai écrit ça. C'est un ministère. Un ministère de quoi déjà? Mission Beau Partage, parce que là, je ne me souviens même plus pourquoi je l'ai mis là. De cas, ils ont besoin de la direction du Seigneur, puis le besoin de tout genre. On peut prier pour la vision de l'Église. On a déjà parlé au début, Daniel avait commencé à parler, qu'on aurait comme vision que notre Église atteigne 300 membres. Mais il faut prier là-dessus pour qu'on atteigne notre vision. On sait que c'est un objectif à moyen ou à long terme. Mais quand même, il faut l'entreprendre dans notre cadre de prière. À court et moyen terme. Mais il faut l'embarquer dans notre sujet de requête pour notre Église. On veut telle affaire. On veut aussi que Dieu organise la structure de l'Église qui pourvoie à d'autres ministères. Le Seigneur veut le faire, mais il attend qu'on le demande. Si on a perdu cet élan ou ce désir-là, on ne le demande plus, puis on va attendre longtemps. Ajout de d'autres ministères. Le Seigneur nous incite dans sa parole à prier pour qu'il envoie d'autres ouvriers dans la moisson. Pour notre projet d'un achat de bâtiment, que Dieu pourvoie au fond et qu'il nous donne la direction pour l'achat. Puis tous les autres projets à venir, que Dieu nous donne l'inspiration puis lui organiser ces réunions-là puis nous donner ses directives. On a du pain sur la planche. Là, on faudrait rajouter la jeunesse que ça a été omis par omission. Non, sans que je m'en rende compte. C'est par omission, mais je n'étais pas au courant de... C'est pas quelque chose que j'ai pas voulu faire, que je me suis abstenu de faire. OK, le point numéro 1, chapitre numéro 6. Priez pour les autorités. 1 Timothée 2.1, c'est le même verset qu'on a lu tout à l'heure. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, mais ça dit aussi pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. On est content de la vie paisible qu'on vit présentement, de cette liberté de pouvoir pratiquer notre religion en paix. Savais-tu que ça les choque que je dise le mot religion? Savez-vous que dans la parole de Dieu, ils disent la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins et à se préserver des souillures du monde? On pratique une forme de religion, veut, veut pas. On croit des choses et on pratique. Mais là, l'idée, c'est, on a une liberté, là, mais il dit, pour qu'on continue à garder une vie paisible et tranquille, dans piété, à continuer à prier et tout ça, prions pour ceux qui nous dirigent. La Bible ne nous dit pas de critiquer chrétien, elle ne nous dit pas de critiquer Bouchard ou l'autre qui est là, hein? Landry. Elle ne nous dit pas de les critiquer, elle ne dit pas de chialer sur les lois qui passent, ça dit de prier pour eux autres afin qu'ils puissent avoir une nouvelle vision des choses et qu'ils puissent amener des points positifs pour qu'on garde notre liberté et notre foi. Faut bénir ces gens-là. Il y a un verset qui dit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple ». C'est Dieu qui a permis que ces gens-là soient là. Les autorités viennent de Dieu et Dieu veut qu'on prie pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est dans le plan de Dieu. On peut marquer leur nom et les sujets de prière. Prier, ça c'est les autorités, on parle des gouvernements, des pays puis des provinces, des villes, le maire, les conseillers, la sécurité publique, c'est des autorités, les policiers, les juges, tout ce qui est de c'est placé là par Dieu pour exercer la justice. C'est des ministres au service de Dieu que la Bible nous dit. On peut prier pour eux autres. Il faut prier aussi pour les autres autorités dans les autres pays dans le monde. Ça va mal dans d'autres pays. Peut-être en rajoutant un peu de prière qui pourrait se passer qu'il y ait des bénédictions qui coulent dans ces pays-là. J'espère que vous n'êtes pas tout endormi. Le chapitre numéro 7.
Amen.
Priez pour le salut et la bénédiction de ceux qui m'entourent. 1 Timothée encore dans le même passage que ça nous dit de prier pour tous les hommes parce que Dieu veut qu'ils soient sauvés. On peut mettre le nom des gens, de nos amis, de nos ennemis, de nos compagnons de travail, de nos voisins, de nos compatriotes. Mettez le nom de tous ceux que vous voyez, que vous connaissez, des amis comme des ennemis. Priez aussi pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, que Jésus a dit. Et ainsi, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Là, les notes personnelles, mais vous pouvez rajouter tous les noms, tout ce que vous pensez, tout ce qui vient à l'esprit. Ça, c'est un guide de prière. Afin de prier d'une manière systématique, ça semble survoler pas mal tous les points qu'on devrait prier régulièrement. Mais il y a au moins une partie qu'on devrait apprendre à le faire à tous les jours, et la suite, là, vous pouvez le faire une par période que ça vous le dit. Commencez un bout, quand vous recommencez un peu plus tard, continuez ce que vous êtes rendu pour finir par foncer à travers toute la liste. Puis ainsi, Dieu va être honoré, Dieu va être béni de nous voir qu'on veut l'avancement de son œuvre, puis il va agir en réponse à ses enfants. Quand l'Église prie, Dieu agit.